Sermon XXI, la nécessité d'une vie sainte et d'une conduite sainte prononcée par Stephen Crisp à Saint Martin's le Grand, le 26 mars 1687. Ici, Crisp explique à une assemblée quake que trop d'entre eux n'avaient pas progressé spirituellement jusqu'au baptême de feu et de mort, suivi de la résurrection du Christ en eux. Il s'écrit qu'ils sont trop satisfaits d'une expression extérieure de leur foi, trop satisfaits d'aller aux réunions, trop complaisants pour avoir entendu la voix du Seigneur, sans posséder ainsi le royaume, et sans crainte quant à leur destinée ultime. Il les exhorte plutôt à prendre sur eux la douleur et l'opprobre de la croix intérieure du renoncement à soi, qui conduit à la paix éternelle et à l'assurance d'une véritable justice et sainteté. Et il y aura là une grande route, un chemin, et il sera appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passera pas, mais il sera pour les racheter. Ésaïe 35, 8 mai, comme celui qui vous a appelés est saint, soyez saints vous aussi dans toute votre conduite. 1 Pie 1:15 C'est pourquoi, ayant ces promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Cor 7:1 Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. 1 Thess 4:7 Recherchez la paix et la sainteté, consécration, sanctification, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12:14 Oh combien sont heureux ceux qui ont du pain dans leur propre maison, et qui peuvent puiser de l'eau à leur propre puits. Ceux-là ont une demeure bénie et glorieuse, ce sont les enfants pour lesquels leur Père pourvoit. Tous les trésors divins et les richesses des choses célestes leur sont réservés. Aussi tous pouvaient voir cet état bienheureux et en être possesseurs. Afin que leurs esprits ne vagabondent plus, que les gens ne soient plus dispersés dans leurs pensées, et que, lorsqu'ils se réunissent, ils aient toute leur attente en ce Dieu qu'ils professent adorer. Seigneur, tu as dit que tu enseignerais toi-même ton peuple. Ici un cri s'élève vers le Seigneur, et leurs attentes par la foi sont fixées sur Dieu. Ils ne se réunissent jamais en vain, un puits jaillit, et l'eau de la vie vient à eux, par laquelle ils reçoivent des rafraîchissements divins. Car vous savez la promesse que notre Seigneur fit à ses disciples, « Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Pourquoi une seule boisson suffirait-elle? Parce que j'ai goûté l'eau vive que le Seigneur Christ me donne, cela suffirait-il? Non, mais au lieu d'un simple goût, il me donne un fleuve véritable et abondant, voilà pourquoi je n'aurai plus soif. Il sera en moi une source d'eau vive jaillissant jusque dans la vie éternelle. Bienheureux en sont les témoins. Ce sont ceux qui sont satisfaits quant à la religion et à la doctrine, ils sont satisfaits quant au culte, ils ne recherchent aucune nouveauté. Quand ils se réunissent au nom du Seigneur, et ils ont les yeux fixés sur lui, qui est une fontaine, et ils discernent une clarté et une gloire indicibles astérisque la gloire que l'on peut décrire, qui apparaît bien des fois au travers d'expériences provisoires, ne les satisfera pas. Il y a au-delà quelque chose qui doit satisfaire, cela n'y parviendra jamais, on ne sera jamais satisfait d'entendre, ni jamais satisfait de voir, jusqu'à ce qu'on en vienne à entendre et à voir ce qui est inexprimable, et alors on est satisfait. Le Christ avait prêché de nombreux sermons à l'ouïe de ses disciples, et il y en avait beaucoup qui disaient qu'aucun homme n'avait jamais parlé comme lui, prêché comme lui. Pourtant l'un de ceux qui lui était le plus proche, le plus familier et intime, après quelques années de réunion et d'écoute de ses sermons, s'écrie « Montre-nous le Père, et cela nous suffira ». Astérisque indicible et inexprimable ne désigne pas seulement des révélations interdites, mais aussi ce qui est incapable d'être décrit par des mots. Les mots ne peuvent décrire la dimension de Dieu, car notre vocabulaire est limité aux expériences de la dimension inférieure de la terre. Mes amis, cela s'approche de l'état de beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous ont entendu longtemps, et ont entendu la voix parler du Seigneur, ce qui pouvait être exprimé, ce qui pouvait être prononcé, par la démonstration du Saint-Esprit, par ceux qui ont reçu du Père. Vous avez entendu cela longtemps, et pourtant il y en a beaucoup parmi vous qui, si vous faites une recherche sérieuse, vous trouverez un manque, vous constaterez encore que vous n'avez pas cette satisfaction qui vous met au-delà du doute, au-delà de la crainte. Il y a quelque chose qui fait obstacle, qui vous empêche de jouir de la gloire indicible de la parole vivante indicible, et cela ne sera jamais ôté que par votre soumission innocente à l'œuvre de la puissance de Dieu dans vos propres cœurs, afin que vous ne soyez pas seulement croyants, mais que vous en veniez à être réellement baptisés par le feu, avec le baptême de mort, et alors tout doute disparaît. Car notre Seigneur a dit, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Il ne dit pas, « Il pourra être sauvé, mais il sera sauvé. » Crisp parle du baptême unique, le baptême du Saint-Esprit avec un feu inextinguible qui brûle la balle, le péché après avoir purgé l'air, nettoyé votre cœur, et que le blé, l'homme nouvellement créé, a été amassé dans le grenier. C'est ce baptême qui détruit l'esprit résiduel de Satan qui vit encore en vous, bien qu'à ce moment-là, fortement diminué en puissance par la grâce du Seigneur déjà, Il détruit l'homme de péché par l'éclat de sa venue, par l'esprit l'épée de sa bouche, et il écrase la tête de Satan sous vos pieds. Une douloureuse expérience nous a appris, en nos jours, qu'un grand nombre ont cru à la vérité et pourtant ne sont jamais susceptibles d'être sauvés. Ils ont fait naufrage dans la foi, mais s'ils avaient été baptisés de feu, s'ils avaient enduré le baptême, s'ils avaient été ensevelis avec le Christ dans le baptême, ils auraient été sauvés chacun d'eux. Et maintenant, il y en a beaucoup qui demeurent dans la croyance de la vérité et pourtant ne sont pas baptisés. Ils ne sont pas morts, pas ensevelis, bien qu'ils aient reçu avec nous une foi d'un égal prix, cette foi qui est de l'opération de Dieu, et qui est d'un égal prix par nature pour tous ceux qui la reçoivent, et produirait aussi le même effet en tout, si elle n'était pas empêchée. Mais bien qu'ils aient reçu la foi en vue du salut de leurs âmes sont captives, leurs âmes sont assujetties aux convoitises, aux plaisirs, aux vanités, aux choses vaines et folles, aux passions et aux corruptions, après avoir reçu la foi. Car si vous prenez quelqu'un qui est croyant de la vérité et qui est surpris par sa convoitise, ses passions et ses corruptions, il reconnaîtra d'ordinaire qu'il croit le contraire, il croit que ces choses ne devraient pas être, que cela devrait être autrement. C'est là le signe de la vérité contre le mensonge. Si cela devait être autrement, pourquoi en est-il ainsi alors? Pourquoi trouve-t-il une vie qui jaillit dans ce qui est corruptible, toujours contraire à la vie de Dieu et en inimitié avec elle? Que ferais-je? Je crois à la vérité. Je sais que la vérité est une chose sainte, et qu'elle conduit tous ceux qui s'y soumettent à une vie sainte, mais il reste ceci et cela d'impur, ceci et cela de corrompu. Que ferais-je? C'est une démonstration évidente que vous manquez du baptême de celui en qui vous croyez. Vous avez cru en Jésus-Christ, qui vient après Jean et qui était avant lui, et maintenant, ayant cru en lui, vous manquez d'être baptisé par lui. Car faute du baptême de feu, la souillure et la corruption qui avaient grandi dans votre nature au temps de votre éloignement continuent de prévaloir contre vous, contrairement à votre foi. Il n'y a pas moyen d'obtenir ce baptême sans s'enfoncer dans ce qui vous immolera, ce qui vous tuera. Mais il y a un tel jeu d'esquive pour sauver sa vie, tant de contorsions et de détours chez les gens pour sauver leur vie, qu'à la fin ils la perdent. Or, nul ne peut jamais trouver la vie éternelle, sinon ceux qui sont disposés à être livrés à la mort et à se soumettre à ce baptême, c'est-à-dire par le Saint-Esprit et par le feu. Ceux-là seuls viennent à la vie, ils viennent à la résurrection. Car vous n'avez jamais connu quelqu'un qui soit mort de cette mort sans qu'il ressuscite. Il est aussi impossible que la mort retienne celui qui est enseveli dans ce baptême qu'il était impossible qu'elle retienne le Christ lorsqu'il était dans le tombeau. La même puissance qui a ressuscité notre Seigneur Christ d'entre les morts, c'est cette même puissance qui nous vivifie, tandis que nous demeurons dans ces corps mortels, après avoir supporté cette mort et cette crucifixion. Mais qui peut croire cette parole? Car c'est une parole dure, qui peut l'entendre? N'est-il pas suffisant que je sois croyant, ce qui fait de moi un ami et me donne droit à une place parmi vous? Et tant que je tiens la vérité et professe la vérité, je suis regardé comme l'un de votre société. Cela est très vrai, cela donne aux gens les privilèges extérieurs de l'Église du Christ. Mais il y a une autre cour intérieure, qui se trouve sous le roseau de l'ange, le roseau de mesure. Elle doit être mesurée, le temple est mesuré, et chaque adorateur dans le temple est mesuré. Il y avait une cour extérieure, destinée à représenter l'Église de Dieu en général, au départ du particulier. La cour extérieure n'était pas mesurée afin que les gentils puissent entrer, les gens non baptisés qui n'avaient jamais été régénérés pouvaient venir. Tous les gens qui ne trouvent pas la sainteté dans cette vie seront punis d'une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. 2 Thessaloniciens 1:9 Remarquez qu'il ne dit pas destruction de la vie ni torture éternelle, seulement éloignés à jamais de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Les adorateurs célestes dans le temple sont dans la cour intérieure, qui a été mesurée, ainsi que chaque adorateur qui s'y trouve, ayant été mesuré un nombre fini. Ceux-ci ont été purifiés dans leur vie terrestre, crucifiés sur la croix intérieure du renoncement à soi, afin d'avoir un cœur circoncis et d'être ainsi des Juifs spirituels. Ceux qui n'ont pas été purifiés sur la terre, les incirconcis de cœur, gentils spirituels, sont dans la cour extérieure, sans mesure infinie. Mais ils doivent passer par l'étang de feu, l'enfer, avant d'arriver dans la cour extérieure. Voir Is There Hope for All pour plus de détails. Vous passez, soit par le feu purificateur, circonciseur et inextinguible du baptême pendant que vous êtes sur la terre, soit par le lac de feu purificateur et inextinguible dans la vie suivante. Et après leur arrivée dans la cour extérieure, ils auront un regret éternel de n'avoir pas saisi l'occasion de leur vie sur terre pour atteindre les récompenses de la pureté, de l'union et du royaume des cieux. Ceux qui vivent dans le temple sont unis cellule à cellule avec le Christ, adorant Dieu et contemplant la gloire de Dieu et sa puissance, avec tous les plaisirs et privilèges indéfinis auxquels la Bible fait allusion. Il nous concerne, vous et moi, mes amis, d'être sérieux au sujet de choses d'une telle actualité et importance, et de ne pas passer nos jours comme s'il s'agissait d'une récitation par cœur, sous une profession superficielle, quoique de la vérité même, sans considérer quels progrès vous avez faits, quels bénéfices vous avez obtenus, et si vous êtes parvenu non seulement à l'ombre des biens à venir, mais à la substance même des choses célestes. Car ceux qui venaient au culte extérieur ne pouvaient jamais, par les sacrifices qu'ils offraient, être rendus parfaits. Ceux qui y venaient n'étaient pas rendus parfaits quant aux choses qui touchent à la conscience, il parle là du culte extérieur, Hebdis 1. Mais en venant aux choses célestes, dont les autres n'étaient qu'une ombre, celles-ci rendaient les gens parfaits quant à la conscience et les amenaient au salut. L'apôtre fait allusion à ce baptême, car il parle en figure des 8 personnes qui furent sauvées dans l'arche de Noé. Puis il ramène l'allégorie au baptême chrétien, non seulement au baptême de Jean, le précurseur du Christ, qui prêchait au sujet du Christ, mais au baptême chrétien lui-même. Par la figure correspondante de ce baptême qui maintenant nous sauve, dit l'apôtre, non pas le dépouillement des souillures de la chair, mais la réponse d'une bonne conscience. Que veut-il dire par « le baptême nous sauve » et il entend la réponse d'une bonne conscience envers Dieu, par la résurrection de Christ d'entre les morts. Ainsi, le baptême chrétien apportait avec lui le nettoyage et l'ôtait de tout péché hors de la conscience, ce qui aurait pu les amener sous des doutes et des scrupules. Et alors il y a un relèvement de Jésus, le Sauveur, dans la conscience, le médiateur qui les amenait à répondre pour eux devant Dieu. Si des gens sont conscients du péché et réfrènent le péché, cela ne nettoie pas encore la conscience, car il demeure encore une conscience du péché. Ce n'est pas en réfrénant notre péché que nous faisons notre réconciliation avec Dieu, ni que nous expions notre culpabilité, ni que nous effaçons la culpabilité des péchés que nous avons commis. Non, il faut un abandon et un évitement du péché par la vertu et la puissance de l'Esprit, par lesquels nous sommes rendus capables non seulement d'éviter le péché, mais aussi d'être guidés et conduits vers le médiateur, dont le sang seul nous réconcilie avec Dieu et nous purifie de tout péché. Si je ne commettais jamais un péché pour le reste de ma vie, cela seul ne me donnerait pas la réponse d'une bonne conscience devant Dieu, car il demeure la culpabilité des péchés commis au jour de l'incrédulité, qui est une barrière et un empêchement. Nul ne peut s'approcher du Dieu Saint autrement que dans l'expiation et le salut qui viennent par Jésus-Christ. Car tous ceux qui croient et obéissent à l'Évangile sont acceptés en Christ, à cause du sang précieux du Christ, qui nous purifie de tout péché et de toute injustice. Qui purifie-t-il? Seulement ceux qui abandonnent leur péché et qui, par sa puissance, sont amenés à une vie sainte. Eux, par la vertu de sa puissance et la purification de son sang, en viennent à voir leur péché d'autrefois ôté d'eux, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Mais qu'est-ce que cela pour ceux qui demeurent dans leur péché? Qu'est-ce que cela pour ceux qui ne sont pas baptisés? Car les morts, qui n'ont pas dépouillé le vieil homme ni revêtu l'homme nouveau, mais n'ont revêtu que le nom et la profession du Christ, et n'ont revêtu que son extérieur, son vêtement, sans l'avoir revêtu lui-même, ne sont-ils pas recréés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, afin d'y marcher? Non. Il n'est pas étonnant qu'ils demeurent en eux une conscience du péché. Il y a une barrière qui les empêche de voir la gloire de Dieu, et d'avoir une satisfaction réelle et véritable concernant leur expiation et leur réconciliation avec Dieu, et cela les empêche de jouir de cette paix qui surpasse l'intelligence. Il n'y a là rien d'étonnant, parce qu'ils ne sont pas venus à ce baptême qui apporte la réponse d'une bonne conscience devant Dieu, ils ne sont pas ressuscités avec le Christ, comment le seraient-ils, car ils n'ont pas été ensevelis avec lui, Rome 6:3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Voici figuré le changement entre ceux qui avaient eu part au baptême spirituel et étaient revenus à la participation de la vie dans la résurrection de Jésus-Christ, et ceux qui n'étaient pas baptisés. Il en est ainsi maintenant pour quiconque vient à croire la vérité et à en faire profession. Un chemin est élevé, et une porte est ouverte pour le salut. Mais la grande question que chacun devrait examiner et se poser est quel progrès a-t-il fait sur ce chemin, est-il baptisé ou non? A-t-il dépouillé le vieil homme avec ses œuvres et revêtu l'homme nouveau et les œuvres de l'homme nouveau, qui sont justice et sainteté? Ceux qui constatent que, bien qu'ils soient croyants, ils en sont encore loin, constatent aussi que cette insuffisance est leur empêchement, leur insuffisance à ne pas s'élever jusqu'au modèle qui leur a été montré. C'est là leur empêchement de sorte qu'ils ne jouissent pas des choses dont on parle ici, d'être sous ce sentiment, et de réellement s'asseoir sous ce sentiment dans une réunion. Même s'il n'y avait aucun homme pour leur parler extérieurement, pourtant, étant venus à cette foi et devenus participants de ce baptême, les gens trouveraient dans leur propre sein la parole de vie cachée, qui répond à leur état. Ils auraient assez, il n'y aurait pas pour eux de famine de la parole, et il n'aurait pas besoin d'être dans l'attente d'aller vers tel ou tel instrument. Il serait satisfait, lorsqu'ils sont réunis, de la présence du Seigneur, que le Seigneur est au milieu d'eux, leur dispensant la parole de vie, dans son opération et son œuvre, parlant une langue que chacun peut comprendre, parlant d'une sorte de voix et de langage, afin que chacun puisse comprendre son propre état et condition. C'est ainsi que Dieu, dès le commencement, a amené les gens à la connaissance des choses célestes et à l'ouverture des mystères du salut. Nous ne l'avons pas reçu des hommes, mais de Jésus notre Seigneur. Il était notre grand ministre, nous l'attendions, nous nous confions en lui, et il nous enseignait lui-même. Dans notre attente silencieuse et paisible, il nous a dispensé les choses qui nous convenaient. Nous pouvions bien dire, il nous donnait notre nourriture au temps convenable. Il a non seulement donné une nourriture solide aux hommes, mais il a dispensé le lait pur de sa parole aux petits-enfants, qui vivaient dans la sincérité et le renoncement à soi, aimant Dieu par-dessus toute chose, et il nous a instruits et conduits dans notre chemin, ce chemin de simplicité, jusqu'à ce que nos entendements s'ouvrent, jusqu'à ce que nos âmes soient préparées à recevoir les mystères de son royaume. En ces jours-là, il y en eut qui s'élevèrent en connaissance et qui bâtirent leur nid bien haut et prirent du lin et de la laine, de l'argent et de l'or, et s'emparèrent. Mais le Seigneur les découvrit, les abaissa, leur ôta la couronne de la tête et les revêtit de déshonneur. C'est ainsi que Dieu agit d'âge en âge, son jugement commencera par sa propre maison. Si vous souhaitez croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, alors croissez dans l'humilité et le renoncement à vous-même, et gardez une vigilance constante sur vos cœurs. Examinez vos cœurs et entretenez-vous avec vous-même sur vos lits, et demeurez en silence. Prenez garde de ne pas pécher contre le Seigneur et de ne pas le provoquer. Il y en eut autrefois qui provoquèrent le Seigneur et commirent de grands maux. Lesquels, ils se sont détournés et ont abandonné la source d'eau vive, c'est comme s'ils disaient qu'ils ne dépendent pas d'une puissance invisible comme ils le devraient. Car je suis une source vivante, et c'est par une puissance invisible que je suis capable de conseiller et d'enseigner, de diriger, de purifier et d'ouvrir leur intelligence, mais ils m'ont abandonné, voilà un grand mal. Et l'autre, c'est qu'ils ne voulaient pas se passer de quelques petites choses. Ils ont abandonné le Seigneur, et ils ont voulu quelques petites choses à la place de Dieu. Ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et combien, en ce siècle, ont commis ces deux grands maux? Mes amis, examinez-vous, n'y en a-t-il pas beaucoup qui se sont rendus coupables de ces deux grands maux? Ils ne gardent pas leur étroite dépendance, leur confiance et leur appui sur la puissance invisible de Dieu, comme ils professent devoir le faire, mais en sont détournés, les uns par l'amour du monde, les autres par les convoitises et les plaisirs, les autres par les passions, et d'autres encore par des intérêts mondains, sont entraînés loin de la puissance, à faire et à dire ce contre quoi la puissance s'élève. N'est-ce pas là abandonner le Seigneur, la source vivante, que font-ils alors? Ne sont-ils pas pour celui-ci et pour celui-là, et pour tel autre, à écouter la parole de celui-ci ou de celui-là, et à se creuser des citernes crevassées? N'ont-ils pas mis leur confiance et leur assurance dans le fait d'aller aux réunions, dans le fait de recommander telle ou telle voie? N'ont-ils pas mis leur confiance dans leur profession extérieure, quand elles ne dispensent rien à leurs âmes, de sorte qu'ils se dessèchent secrètement malgré tout cela. Quand bien même vous auriez tous les hommes et tous les anges qui aient jamais été envoyés de Dieu, établis pour vous prêcher, ils ne pourraient pas vous communiquer la vie, à moins qu'il n'y ait cette foi qui repose dans la puissance de Dieu. La foi qui repose dans les paroles d'un homme ne vaincra pas vos convoitises, mais la foi qui repose dans la puissance purifie le cœur, elle n'y laissera aucune chose impure. Quant à la prédication, qu'un homme prêche contre telle ou telle convoitie et corruption, elles demeureront là malgré toute sa prédication, à moins que les hommes ne connaissent la puissance et la vie de Dieu, dans lesquelles se trouve la justice, car les paroles et la connaissance, la vue et la spéculation, ne donneront jamais aux gens la victoire sur leurs péchés. C'est pourquoi, vous le savez, quiconque est affermi doit l'être là où se trouve le fondement de la religion. Ce n'est pas en allant aux réunions, ni en adhérant à telle ou telle doctrine que se trouve le fondement de notre religion. Dieu a révélé sa puissance à chacun de nous. Dieu n'a pas donné son esprit aux seuls prédicateurs et prophètes, car alors il y aurait une famine de la parole, comme il y en eut en Israël, les lèvres du prêtre conservaient la connaissance. Si vous ôtiez le prêtre, vous ôtiez leur connaissance. Les prophètes avaient la parole de Dieu, et ils ne parlaient que la parole de Dieu. Si le prophète était ôté, alors la parole de Dieu était ôtée. Le Seigneur menaça d'envoyer une famine parmi eux, ils ont affligé et tourmenté, et tué et détruit les prêtres et les prophètes. C'est pourquoi, dit le Seigneur, j'enverrai parmi vous une famine, non de pain, mais de la parole, et ils iront de ville en ville, et chercheront la parole du Seigneur. Ainsi en allait-il dans l'Église juive, s'il y avait un prophète, il ferait 30, 40 ou 100 000 pour aller vers celui qui avait la parole du Seigneur. Ils iront de ville en ville pour chercher la parole du Seigneur. Mais béni soit Dieu, nous sommes venus à un autre temps, car maintenant la parole du Seigneur est manifestée dans les cœurs de tous ceux qui croient. Ils connaissent la parole. Je ne dis pas que tous ceux qui croient prêchent la parole, ou devraient prêcher, mais la parole leur prêche. Ils ne sont pas comme des citernes crevassées qui ne peuvent retenir l'eau. Quand ils trouvent la parole et l'entendent, ils disent aussitôt ce qui est dispensé à leurs propres conditions, et ils le rapportent à d'autres. Quand les gens parviennent à la bénédiction de cette dispensation où la parole de Dieu se révèle dans leur cœur, alors ils en connaissent le sens, ils en comprennent la doctrine leur prêche la sainteté, non pas qu'ils prêchent la sainteté tout en demeurant impies, non pas qu'ils prêchent l'humilité tout en demeurant orgueilleux. Elles prêchent la sainteté, l'humilité et la droiture de cœur à un reste qui, tels de bons élèves et disciples, apprennent les leçons et la doctrine de la parole de Dieu. Maintenant, lorsque vous les avez bien apprises, que vous en êtes venus à voir l'effet de la parole, et que vous produisez les actes et les œuvres qui sont les fruits de la sainteté, achevant la sanctification dans la crainte de Dieu, et avec une humilité connue et attestée en Jésus-Christ, et que vous n'êtes pas seulement doux en apparence, mais doux et humble de cœur. Quand les gens en viennent à être doux et humbles, et d'une conscience pure, purgés de toutes œuvres mortes pour servir le Dieu vivant, alors, si le Seigneur leur donne une parole d'exhortation, de doctrine ou de conseil, elle est fort bienvenue, elle a une saveur par la bénédiction de Dieu, et par elle ils sont édifiés dans leur très sainte foi. Cette parole est produite dans la sainteté et la justice de leur vie, et se manifeste dans une vie de sainteté. Alors vous brillerez par votre conduite devant tous, de sorte qu'ils verront que vous êtes un homme ou une femme qui a été avec Jésus, qui a appris de Jésus, et qui reçoit une parole greffée. Quand vous recevez la parole dans votre cœur, il y a cette greffe. Si elle n'y a pas de racine, alors, dit le Christ, ma parole ne demeure pas en vous. Si vous sentez quelque chose de cette parole invisible dans vos cœurs, elle vous amène à prendre la résolution de servir Dieu, de vous préserver du péché, et d'être à la hauteur de la profession que vous faites de Dieu. C'est là l'effet de la parole de Dieu, si elle demeure en vous. Demeure-t-elle, vous le saurez dans un petit moment ou demain, dès qu'une tentation viendra vous pousser à l'orgueil ou à la passion, à la fraude ou à la tromperie, alors vous verrez si la parole demeure. Si elle demeure, vous ne péchez pas. C'est l'Écriture, une doctrine de fondement certaine, qu'on peut prêcher aussi sûrement que n'importe quelle doctrine. Si la parole demeure en vous, vous ne péchez pas. Et alors, laissez partir la parole, et vous pécherez chaque fois que vous y serez tenté. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Nous verrons, dès que la tentation vous rencontrera, si la parole demeure en vous. Si elle demeure, vous ne pécherez pas, mais vous résisterez au tentateur. Posez le pied sur la tentation et passez par-dessus, et vous aurez la domination, et cela fera de vous un homme ou une femme libre, et vous tiendrez ferme dans la liberté dont le Christ vous a affranchi. L'apôtre les suppose libres, et qu'ils ont obtenu la domination, tenez donc ferme, dit-il, dans la liberté dont le Christ vous a affranchi. Ce n'est pas une liberté de convoitise et de péché, mais une liberté de l'âme. L'âme n'est plus au bon plaisir ni à l'appel du diable. Car c'est une honte pour la doctrine du christianisme que nous professons des choses et pourtant les renions dans la pratique. Nous professons qu'il y a en Christ une puissance pour nous garder et nous préserver du péché, et nous professons croire que cette puissance est communiquée à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ pour leur préservation, c'est-à-dire qu'il ne la leur refusera pas. Nous professons ces choses face au monde entier, et pourtant, quand le diable appelle un homme à l'avarice, un autre à tromper son prochain, un autre à se souiller, il s'y laisse entraîner. Quelle hypocrisie y a-t-il à professer cela et à agir à l'inverse? Je ne m'étonne pas que ceux qui professent ne pouvoir vivre un seul jour sans péché tombent, mais que ceux qui professent croire qu'il y a en Christ une puissance suffisante et qu'elle leur est offerte, vivent dans le péché et cèdent à la tentation, c'est une horrible méchanceté. Ceux qui ont un esprit droit et simple mourraient plutôt que de pécher, sachant que Dieu est tout-puissant et plein de grâce, et disposé à leur accorder sa puissance, sa sagesse et sa grâce s'il les lui demande, ils mourraient plutôt que de pécher présomptueusement contre Dieu. Que cela me coûte mes biens, mon patrimoine, ma liberté ou ma vie, comment pourrais-je commettre une si grande méchanceté et pécher contre Dieu? Ils aiment Dieu par-dessus tout, vous ne les avez jamais entendus se plaindre de manquer de puissance, car le Seigneur est à leur droite, et ils ne seront pas ébranlés. Ils ne peuvent pas tomber, bien qu'ils soient tentés, ils ne tomberont pas dans la tentation. Ils ont la puissance, lorsqu'ils voient le diable devant eux, de le mettre derrière eux, la noblesse de leur origine, de leur nouvelle naissance et régénération, met dans leurs âmes une telle disposition et un tel tempérament qu'ils dédaignent d'être au commandement du diable, comme s'ils étaient ses enfants. C'est une chose noble et honorable que d'être un enfant de Dieu, une très haute dignité que d'être dans une relation aussi honorable avec Dieu, et d'avoir droit aux demeures célestes, de s'asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je voudrais à Dieu que vous y soyez tous prêts, que vous ayez revêtu l'habit de noces, afin de ne pas être liés pieds et poings et jetés dans les ténèbres du dehors. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas dans cette disposition et ce tempérament céleste, et ne tirez-vous pas les eaux du salut de vos propres âmes? Le Seigneur pouvait-il faire quelque chose de plus qu'il n'a fait, et ses serviteurs pouvaient-ils faire davantage qu'ils n'ont fait pour vous aider? Leurs labeurs, n'en sont-ils pas la démonstration? Nous avons été comme des épîtres du Christ écrites dans vos consciences. Nous avons témoigné qu'il manque quelque chose chez un trop grand nombre, le manque de se remettre au baptême de la croix. Les gens veulent bien être comptés parmi les amis, mais les amis de Dieu sont ceux qui font tout ce qu'il leur commande. Telle est la leçon chrétienne, non pas dire « je serai un ami pour vous et un ami pour l'Église et pour telle sorte de gens », mais « je serai un ami de Dieu et je ferai tout ce qu'il me commande ». Quel que soit le commandement que Dieu vous impose, soit de prendre une croix, soit de vous renier vous-même et de le suivre. Apprenez cette leçon, et vous serez vraiment des disciples, et aussi des membres de l'Église, non pas des membres d'une Église privilégiée seulement extérieurement, mais des membres de l'Église des premiers-nés, et vos noms seront écrits dans les cieux. Lorsqu'on en vient à avoir son nom écrit dans les cieux, on en vient à connaître son nom. C'est une pierre blanche, non une pierre tachetée. Ceux qui l'ont la connaissent, ils ne sont pas ignorants des noms des uns et des autres, écrits dans ce livre. Ils ont une communion que personne ne peut déclarer. Leur communion est dans ce pain et dans cette coupe. C'est une coupe de bénédiction véritablement, et elle nous a bénis et nous bénira. Dieu préservera un peuple dans cette communion. Vous qui êtes maintenant à distance, vous devez vous rapprocher de lui. Dieu choisira un peuple par qui son nom sera magnifié. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, nous ne pouvons que désirer cela pour tous, surtout pour la maison de la foi. Nous ne pouvons que désirer leur perfection, leur croissance dans la grâce de Dieu, afin qu'ils deviennent participants du ciel. Et ensuite, notre amour va à tous les peuples partout. Nous serions heureux que tous soient sauvés. Ceux qui nous méprisent quand nous parlons des choses célestes, parlant comme un enfant qui balbutie, parlant des glorieuses excellences de Dieu, de la bonté aimante de Dieu, parlant de ces choses que Dieu a dites à nos âmes, ceux qui méprisent ces choses, nous serions heureux qu'ils puissent être sauvés. S'ils étaient participants de ces choses, ils s'en réjouiraient comme nous, et ils seraient plus réellement heureux quant à ce monde, pendant le temps qu'ils doivent y vivre, ils vivraient une vie plus heureuse même dans ce monde, et ils auraient la vie éternelle dans le monde à venir. L'amour du Christ pousse les hommes à juger ainsi, que chacun qui a reçu une foi d'un égal prix doit répondre à cette grâce et à cette foi que Dieu leur a dispensée par une vie et une conduite sainte, et que quiconque est étranger à cela doit avoir un esprit de recherche et un cœur ouvert pour attendre le jour où Dieu les visitera avec la même grâce. Quand vous vous livrez à une croix quotidienne, comme disciple du Christ, vous ne courrez pas après quelqu'un pour qu'il vous apprenne à connaître le Seigneur, car vous connaîtrez tous le Seigneur, du plus petit au plus grand. Moi qui n'ai été qu'un peu convaincu, connaîtrai-je le Seigneur. Vous connaîtrez le Seigneur, vous qui êtes mort dans vos péchés et vos offenses, vous qui n'avez pas connu le sang purificateur, vous connaîtrez le Seigneur comme votre juge et votre législateur, pour vous enseigner comment vous devez vivre, marcher et agir, et n'est-ce pas une bonne connaissance? C'est sur cette voie qu'il s'appuyait autrefois. C'est une expression remarquable, le Seigneur est notre juge, voilà le commencement, c'est là qu'il a commencé. Le jugement commença par la maison de Dieu, ce qu'il introduit dans sa maison, il les place sous la discipline de sa maison. Le Seigneur est notre juge, il est notre roi et législateur, et il nous sauvera. Ce même exercice de discipline sous le jugement leur a apporté la foi et l'expérience qu'il était leur législateur, et cela les a conduits à une foi en la sentence finale. Nous serons sauvés, et le Seigneur répond à un tel peuple qu'il leur apportera le salut sera pour muraille et rempart. Si seulement le peuple de cette nation savait que le salut s'est approché d'eux, et qu'il est leur rempart, on ne s'écrierait pas en faveur de telle ou telle chose pourrie comme d'un rempart. Nous parlons d'un rempart comme les autres, nous avons un rempart, béni soit le Dieu du ciel, fait d'une matière meilleure que la leur. Car c'est le salut de Dieu qui nous a gardés de la souillure du péché, et de nous précipiter dans tout excès et toute débauche où d'autres se sont précipités. Il nous a gardés du mal, il a tenu les maux hors de nous, et nous avons trouvé certainement vrai que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et craignent Dieu, que toutes les providences de Dieu ensemble, elles ont toutes œuvré pour notre bien, et c'est ce rempart dans lequel nous avons mis notre confiance, il nous a servi jusqu'ici, et il servira à nous et à notre postérité jusqu'à la fin du monde. C'est un rempart qui ne sera jamais pris d'assaut, qui ne sera jamais renversé ni dévasté, quand bien même toutes les puissances de la terre et tous les gouvernants de ce monde s'uniraient, ils ne prévaudront pas contre lui. Nous avons le salut pour murailles et remparts. Si je suis à l'intérieur de ces murailles, le salut m'environne. Si je suis entré dans ce rempart éternel, je suis à l'abri du diable et de ses instruments. Voilà un rempart sur lequel on peut s'appuyer. Beaucoup s'étonnent que nous différions de sur certaines opinions. Nous avons une telle confiance dans ce rempart que nous n'en désirons pas d'autre. Dieu durera et demeurera pour toujours, et ce rempart aussi. Tout le soin que je prends, et tout le soin que vous devez prendre, c'est de demeurer à l'intérieur de ces murailles. Ne vous aventurez pas dehors. Si vous sortez, le diable veille et cherche continuellement qui il pourra dévorer, il attrapera les traînards. Si les gens sortent pour le profit, ou pour le plaisir, ou pour l'intérêt, le diable les attrapera. Comment même quand ces gens parlent de salut pour murailles et remparts? Le diable les a pris dans son piège, et ils sont capturés dans l'ivrognerie, l'impureté et d'autres péchés. La raison en est qu'ils sont sortis de leurs remparts, ils se sont aventurés hors de leurs murailles, car le diable n'aurait jamais pu les en tirer. « Oh, prenez garde, dit l'apôtre, qu'il ne s'élève en aucun de vous un cœur mauvais d'incrédulité, en se détournant du Dieu vivant. » Comme s'il avait dit, « Vous êtes chrétien maintenant, vous êtes un peuple parvenu à un bon état en Christ, mais considérez que vous n'avez aucune force pour tenir ferme sinon en lui, aucune puissance pour vous garder sinon en lui. Prenez garde en tout temps qu'il ne s'élève pas en vous un cœur mauvais d'incrédulité, en vous détournant du Dieu vivant. Prenez garde qu'il ne s'élève pas en vous une pensée comme celle-ci, « Je puis prendre tel plaisir et tel profit. Considérez que vous mourrez et vous dessécherez si vous vous détournez du Dieu vivant. Prenez garde de prendre une liberté qui dépasse la crainte de Dieu. Ce n'est pas notre discours sur le salut comme muraille et rempart qui nous fera du bien, mais le fait de demeurer à l'intérieur de ces murailles. Je me souviens d'une parole remarquable de l'apôtre, qui a en elle une grande force et beaucoup de doctrine. Il écrit à l'Église après qu'ils furent devenus un peuple de chrétiens de profession croyants, « Prenez garde que vous ne veniez à être séduit par le serpent, comme il a séduit Ève. » Il ne parlait pas de Jézabel, une femme méchante, mais il parlait d'Ève, une bonne femme, créée à l'image de Dieu, en justice et en sainteté. Ils étaient parvenus à une vie de sanctification, à une vie cachée aux siècles et aux générations. Vous devez veiller sur vous-même, et vous regardez vous-même comme dans l'état de votre mère Ève, une femme produite dans la justice et la sainteté, qui aurait pu se tenir dans cet état premier, malgré toute la subtilité de tous les serpents du monde. Mais en prêtant l'oreille à ce vieux serpent, elle fut séduite, il s'éleva une consultation dans sa partie résonante. Il se peut que ce soit, comme il a dit, j'essaierai. Ainsi je vous dis, à vous qui êtes parvenus à un état de sanctification et qui, dans une certaine mesure, connaissez la puissance purificatrice de Dieu, et qui n'y avez pas cru en vain, mais qui a effectivement opéré en vous quelques changements et transformations, et poursuit encore l'œuvre de votre salut. Bien des tentations vous accompagneront, et bien des pièges seront tendus sur votre chemin, mais Dieu vous a préservé jusqu'à ce jour. Je sais que les ruses et les tentations du diable sont multiples, elles sont adaptées aux inclinations de chacun, ajustées à chaque opportunité et à chaque occasion dans ce monde. Les hommes sont éprouvés de toute façon par le tentateur, pour voir par quels moyens il pourrait les prendre au piège. Il essaie par tous les moyens d'engluer et d'enchevêtrer les simples, afin de les faire dévier à droite ou à gauche, pour que leurs âmes soient détruites et périssent. Je ne puis vous parler par un mot plus énergique, par une exhortation plus familière que celle-ci, prenez garde de ne pas être séduit comme Ève le fut. Beaucoup seront tentés comme elle le fut, mais je ne voudrais pas que vous fassiez comme elle, et que vous cédiez à la tentation. Prenez garde de ne pas vous souiller, mais gardez vos vêtements blancs. Vous qui avez été lavés et purifiés, efforcez-vous de vous garder sans tache du monde. Voilà la religion pure et sans tache, celle qui a éclairé bien des nations, et qui éclairera encore beaucoup de ceux dont la religion est d'être sans tache et de se garder sans tache du monde. Je prie Dieu d'en augmenter le nombre, afin que l'œuvre bénie de la sanctification, qui a commencé de cette manière, se poursuive à sa louange, et pour le salut de nos âmes, pour la diffusion de sa gloire et l'exaltation de son nom, afin que les étrangers dispersés et désolés soient ramenés dans sa voie sainte et y marchent. Afin que nous tous, dans une même communion, marchant dans cette voie sainte, puissions par l'Esprit éternel offrir louange et action de grâce à Dieu, qui est digne de recevoir gloire et honneur, puissant. Amen. Sermon XXI. Le baptême et la scène du Seigneur affirmée prononcée par Stephen Crisp à Gracious Street, le 15 avril 1688. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ pour le gouverner comme roi, en faisant sa volonté, il ne lui appartient pas. Si je n'en disais pas davantage, il y a quelque chose dans la conscience de chacun qui en rendra témoignage. Si celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, vous pouvez dire, à qui appartient-il donc? Si ceux qui n'ont pas son Esprit ne sont pas à Christ, à qui sont-ils donc? Tous appartiennent à l'Esprit qui les gouverne, chacun de nous appartient à celui dont l'Esprit règne sur nous, à la puissance duquel nous sommes soumis. Vous savez que cela distingue les gens dans le monde, un roi reconnaît ses sujets de ceux d'un autre roi, ils sont dans l'obéissance à tel, tel et tel roi ou prince, sa loi est sur eux, ils y sont assujettis, ainsi voici une décision concernant tous les peuples du monde, à qui ils appartiennent. Nous tous, j'espère, nous attendons qu'il y aura une décision au jour du jugement, et nous croyons ce que nous lisons à ce sujet, qu'il y aura une décision et que les uns seront placés à droite et les autres à gauche, les uns entendront la sentence « Venez-vous les bénis » et les autres la sentence « Allez-vous les maudits ». Mais dès maintenant il y a moyen de connaître l'issue de l'affaire avant de quitter ce monde, avant le jour du jugement, où il n'y aura plus de remède. Ce qui sera alors devra être et demeurer ainsi. Or il n'est pas nécessaire que cela continue ainsi. Si cela va mal, cela peut être corrigé. Si je n'appartiens pas au bon prince, si je ne suis pas sous la bonne puissance et le bon esprit, je peux le devenir car c'est maintenant un jour de grâce, un jour de miséricorde. J'ai été rebelle envers le bon prince, je peux être pardonné et rétabli en faveur. Il vaut bien mieux pour les gens connaître leur état maintenant que de le connaître alors, parce qu'alors il n'y aura plus de remède. L'apôtre, en exposant des doctrines fondamentales apostoliques qu'il fallait croire et prendre en considération, et qui le sont encore à notre époque, de sorte que nous pouvons dire « les choses écrites autrefois l'ont été pour notre instruction », il fait cette affirmation et pose ce point de doctrine, « celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas, il ne lui appartient point, bien qu'on l'appelle chrétien, il n'est pas chrétien. S'il n'a pas l'esprit de Christ, ce n'est qu'un nom qu'il a acquis, il n'a pas ce qui le fait l'être essentiellement, car rien ne peut faire un chrétien sinon d'avoir l'esprit de Christ. C'est pourquoi, quand il voulait justifier qu'ils étaient chrétiens, il le prouvait ainsi, car lui, parlant de Dieu, a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, et nous connaissons la pensée de Christ, nous connaissons celui qui est véritable, ou nous sommes en celui qui est véritable. Ces choses, si elles étaient justes, si elles étaient vraies, étaient des démonstrations évidentes qu'ils étaient une sorte d'homme qui dépendait davantage de l'esprit, des enseignements spirituels et de la conduite spirituelle, que de toutes les règles et méthodes d'enseignement qui existaient dans le monde. Je parle de cela, amis, parce que vous savez aussi bien que moi combien notre époque a été hostile à ce qu'on parle des dispensations spirituelles ou des enseignements spirituels. Bien qu'un homme ait autrefois été tenu pour sage, savant ou doué, s'il se met une fois à bredouiller un peu au sujet de l'enseignement intérieur, cela suffit à le flétrir et à le rendre la risée de ses connaissances, comme s'il n'y avait rien de tel au monde. Nous avons un livre appelé la Bible, d'un bout à l'autre, il est plein de telles expressions, « être conduit par l'Esprit, vous avez une onction qui vous enseigne toutes choses ». Tout le fil du Nouveau Testament porte sur les enseignements spirituels et les opérations divines, et sur la foi comme opération de Dieu, et l'Ancien Testament abonde en expressions prophétiques selon lesquelles, au jour du Nouveau Testament, si les gens voulaient chercher la loi de Dieu, ils devraient la chercher dans leur cœur, et s'ils voulaient connaître Dieu, ils devraient regarder au Médiateur, le Seigneur Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous dirige aussi dans cette voie, les chrétiens devraient être le peuple le plus spirituel du monde, voilà le guide, voilà la règle. Mais, disent-ils, l'Écriture est le fondement de la foi et des mœurs, de la croyance et de la pratique, trop souvent ce n'est que dissimulation, et je crains qu'on ne la trouve chez certains. Quoi, l'Écriture est-elle la règle de la foi? Et les gens peuvent-ils croire ce qu'ils trouvent dans l'Écriture? Oui, mais certains disent, il vaut mieux se tenir sur ses gardes de peur de l'erreur. Ce qui est dans l'Écriture est sérieux, solide et orthodoxe. Pensez-vous que les Quakers n'aient jamais trouvé dans l'Écriture que les gens devaient attendre l'Esprit, prier dans l'Esprit, servir Dieu dans l'Esprit, et que toute religion qui n'est pas en puissance n'est d'aucune valeur, ne l'ont-ils pas trouvé dans l'Écriture? Et vous qui n'êtes pas Quakers, avez-vous jamais lu le Nouveau Testament? Comment se fait-il que vous n'ayez jamais trouvé ces textes? Pourtant certains lisent et relisent le Nouveau Testament 20 fois, et se moquent, raillent, et persécutent un homme qui parlera de l'enseignement de l'Esprit. Je m'en suis étonné. Comment des hommes intelligents, à qui Dieu a donné une compréhension suffisante, peuvent-ils être si aveuglés? Ils ont appris à lire l'anglais, et ils ont lu plusieurs fois le Nouveau Testament, et l'Ancien Testament aussi, et ils ont lu ces paroles de la doctrine de Christ qui, si couramment et unanimement, parle des enseignements divins et des opérations spirituelles, du culte spirituel et de la religion spirituelle, laquelle doit avoir pour origine quelques mouvements et quelques impulsions du Saint-Esprit, et que toutes les autres ne sont pas agréables à Dieu. Sans doute ont-ils lu ces choses, mais j'ai souvent désiré, et je le désire encore, qu'ils le relient. On a regardé auparavant comme une invention le fait de parler de l'enseignement de l'Esprit, d'attendre l'Esprit, et d'être mû par l'Esprit. Cette doctrine apostolique, la prière et le culte ont été considérés comme une invention que nous aurions introduite. Chercher le Saint-Esprit de cette manière, inconnue de nos pères, est, disent-ils, une fantaisie des Quakers. Dire aux gens qu'ils doivent être conduits par l'Esprit dans les choses divines, comme la prière et le culte, et autres semblables, dire que dans ces choses, ils doivent attendre l'Esprit, Y a-t-il jamais eu un homme réputé bon à quelque chose qui ait prêché ainsi avant l'arrivée des Quakers? Lisons-nous quelque chose de ce genre dans l'Écriture. L'aveuglement qui s'est abattu sur cette nation. J'ai considéré, non sans étonnement, comment le diable lui sied un esprit, et un esprit mauvais, comment il a pu avoir le pouvoir d'empêcher que nous reconnaissions aujourd'hui la croyance, le sens et le sentiment de l'Esprit de Dieu. Il y a des milliers dans cette nation qui ont autrefois cru qu'il était aussi impossible à un homme de croire au mouvement et lutte divin de l'Esprit de Dieu en cette vie, que de ressusciter leur père et mère de leur tombe. Certains de leurs doctes enseignants nous ont dit que c'était une lubie et une fantaisie. Nous l'avons maintenant, disent-ils, noir sur blanc, imprimé dans nos livres, donc, selon eux, il n'y a plus besoin de l'esprit, et les gens n'ont pas besoin d'être familiers de l'opération de l'esprit de nos jours, puisqu'ils ont dans leurs livres la manière de culte qu'ils doivent accomplir. Les ministres, qui propagent ce mail selon lequel l'esprit ne parle plus, sont les guides aveugles dont Jésus nous a avertis. Qu'a dit Jésus qui rend un guide aveugle? S'il est un disciple non parachevé, c'est un guide aveugle. Les hommes qui propagent ces mails nient aussi que la perfection soit possible, ils sont donc manifestement non parachevés et aveugles. Et ils demeureront aveugles et sourds parce qu'ils enseignent un salut mensonger, ils s'opposent au maximum à l'Évangile et au salut de Christ. Ainsi, bien sûr, l'Esprit de Dieu ne va rien révéler aux ministres de Satan, transformés pour paraître comme des ministres de justice. Je leur accorde ce qui leur est dû, ils ont la direction de l'Écriture. Je suis capable de comprendre, d'après l'Écriture, que les gens doivent adorer Dieu et le prier, et qu'ils doivent se réunir et observer tel et tel précepte doctrinal qui y est exposé. J'avoue que je peux me débrouiller avec l'Écriture pour former une forme de religion, et si je ne me trompe pas dans l'ouverture et l'explication de la doctrine, je pourrais même en faire une forme correcte. Mais je suis sujet à l'erreur. Un autre homme, qui comprend mieux le grec que moi, dira que le mot grec doit être traduit ainsi, et que la forme. Les uns disent que la seule forme de gouvernement est par évêque, et que le mot le porte dans l'original. Un autre affirme qu'on a étiré le mot, car le mot signifie presbytre. Un autre affirme que presbytre ne signifie rien de plus que le choix d'anciens et de diacres de l'Église, et autre chose semblable. Et tout cela à partir d'un seul livre, l'établissement des évêques, des presbytres et des anciens. Ici, un certain nombre de faiseurs de formes se crêlent tous sur le sens du mot. Quel remède un homme mortel peut-il apporter à cela? Nous ne devons pas nous entretuer à cause de mots. Si je suis épiscopalien et que je dis que le mot signifie évêque, je peux être encore un homme méchant. Et si un autre dit que cela doit être presbytre, il peut aussi être un homme méchant. Et si un autre dit que ce devrait être pasteur, ancien et diacre, il peut être un homme méchant malgré tout. Ainsi, ils se sont déchirés et lacérés les uns les autres au sujet du gouvernement de l'Église. Quel remède aurons-nous pour que ces querelles et disputes sur des termes et des mots prennent fin? Un homme pourrait-il prescrire un remède plus certain à toutes ces erreurs que celui-ci? S'ils avaient une mesure de cet esprit qui agissait dans les apôtres lorsqu'ils écrivaient ces paroles, que les apôtres avaient en les écrivant, alors, dis-je, ils pourraient vous dire ce que l'esprit voulait dire, car l'esprit est le même et n'a pas changé, et les paroles sont les mêmes à peu de choses près. Ainsi, si un homme avait l'esprit, il pourrait mettre fin à toute la controverse, mais où trouverons-nous un homme qui ait cet esprit pour mettre fin à la controverse? Il n'y en a aucun de nos jours, disent les protestants. Et les papistes disent qu'il n'y en a qu'un seul qui ait cette infaillibilité, et beaucoup ne soutiennent même pas cela, car certains d'entre eux disent qu'un homme est aussi infaillible qu'un autre. Il y a une grande dispute pour savoir si un seul homme est infaillible, ou si un grand nombre d'hommes ensemble sont infaillibles en matière de doctrine et de culte. Cela pourrait être guéri d'un seul coup si nous pouvions en venir à cette conclusion. Papistes, protestants et quakers, voici la fin de tout culte extérieur, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. S'il n'y a pas d'esprit là-dedans, ce n'est pas la religion et le culte de Christ. Ainsi, ceux qui chipotent, aboient et mordent sont dehors, parmi les chiens et les enchanteurs astérisques et étrangers à l'esprit de Christ, il y a un esprit dans ceux qui nient l'esprit de Christ, il y a un esprit qui règne dans ceux qui sont sans l'esprit, car personne, à ma connaissance, n'ajoute des choses sans esprit et sans être mu. Quoi, les bons et les mauvais seraient tous mus par l'esprit, et pourtant n'y aurait-il pas de mouvement? J'ai parfois retourné la question aux gens et je leur ai demandé, s'il n'y a pas de mouvement du mauvais esprit, n'a-t-il donc aucune influence de ce genre, capable d'agir sur nos esprits, au point que nous sentions distinctement que nous sommes poussés à telle action? Je n'ai jamais rencontré d'homme qui le nie, ils sont si généralement favorables à l'esprit mauvais, personne ne niera que le diable est une manière d'agiter et de remuer l'esprit d'un homme, et de lui suggérer telle chose mauvaise. Comme je l'ai parfois dit, c'est une opinion si généralement admise que, lorsque le criminel est traduit à la barre pour quelque crime grave, on fonde l'acte d'accusation en lisant « Tel jour, il fut mu et incité par le diable à faire telle chose ». Voilà un mouvement reconnu au diable pour influer sur l'esprit des gens, mais ils n'admettent aucun moyen pour que le bon esprit de Dieu influe sur l'esprit des hommes. ce qui ne nous laisse rien, sauf la mauvaise incitation, et quant à connaître des mouvements intérieurs vers le bien, on ne doit pas s'y attendre de nos jours. Astérisque, les chiens et les enchanteurs sont les ministres de la chrétienté. Dans l'Ancien Testament, les chiens léchaient le sang des hommes morts. Les chiens étaient des prédicateurs qui se nourrissaient eux-mêmes, sans jamais être rassasiés. Les chiens étaient des sentinelles, prédicateurs aveugles, muettes, ignorantes, incapables de faire retentir un avertissement, couchés, aimant, sommeillés. Dans le Nouveau Testament, Paul a parlé des chiens judaïsants qui prêchaient la circoncision, dont la confiance était dans les œuvres de la chair. Les chiens déchirent les agneaux, ce sont des hommes charnels encore dans leur nature pécheresse, qui persécutent ceux qui sont nés de l'esprit. Les chiens étaient ceux qui prêchaient la forme extérieure et les observances de la religion, cherchant à préserver et à justifier l'homme de péché continuant dans sa nature égoïste pécheresse charnelle. Ainsi aujourd'hui, les chiens seraient les prédicateurs et enseignants de la chrétienté. Ils peuvent aussi être des partisans de Hare Krishna, ou de l'hindouisme, ou du bouddhisme. Si vous leur dites vos compréhensions saintes, c'est une perte de temps, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est vous convertir à leur façon de penser. Ainsi vous gardez votre paix. Vous n'essayez pas d'instruire les sages ni de corriger ceux qui pensent voir, mais ne voient pas. Comme enchanteurs, ils pratiquent la sorcellerie au moyen de rituels et de cérémonies, baptême des enfants, pain-vin, baptême d'eau, prière du pécheur, qui sont censés rendre un homme acceptable à Dieu, tandis que cet homme demeure esclave du péché, servant ainsi Satan, non Dieu. Comment donc le serpent rusé, qui voudrait avoir du pouvoir sur les meilleurs d'entre nous, pourrait-il être dit nous cribler ? Christ signifia à Pierre, disciple hardi et résolu, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Si le diable avait pouvoir sur chacun, pour en faire ses serviteurs et ses esclaves, quel remède avons-nous, sinon que nous devons tous périr et aller droit en enfer avec lui, à moins qu'il n'y ait quelque moyen de lui résister ?» C'est vrai, disent les gens, il faut résister au diable, nous le trouvons dans le Nouveau Testament, résister au diable, c'est un bon exercice, mais dites-moi une chose, quand je m'efforce de résister au diable, dois-je lui résister par ma propre puissance ? Si je disais que vous le pouvez, vous diriez que je suis un prédicateur dans l'erreur, et vous auriez raison. C'est une vieille doctrine du libre arbitre, qu'un homme peut résister au diable par sa propre puissance, échapper à ses pièges et faire la volonté de Dieu. Cela a été décrié par les docteurs de l'Église d'Angleterre, et par la plupart des chrétiens de toutes sortes, et pour notre part, depuis que le Seigneur a ouvert nos bouches, nous n'avons jamais dit un mot en faveur de cela, comme si nous entreprenions de résister au diable par nos propres forces. Si nous le faisions, le diable se moquerait de nous. Celui qui entreprend de résister au diable par sa propre force sera pris et enlacé par lui, car les hommes ont une propension au péché, et par sa ruse et sa subtilité, il peut les conduire dans un piège avant qu'ils s'en aperçoivent. Ainsi, de l'avis de tous, notre puissance, en tant qu'hommes, est trop faible pour résister à la tentation de Satan, de sorte que vous voyez, il nous faut l'assistance de la puissance divine, ou bien nous irons tous en enfer. Il n'y a pas de milieu entre ces deux extrêmes, une puissance extraordinaire doit m'assister, sinon le diable m'aura. Si vous n'admettez pas qu'une puissance surnaturelle vienne m'aider, moi et vous, nous devons tous aller en enfer, il n'y a pas de remède. Je dirai mes prières, dit l'un, faites-le, et pourtant, dans le meilleur de vos prières, il y aura du péché, et si je regarde l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'écoutera pas. J'irai écouter des sermons, dites-vous. L'homme même qui prêche vous dira que l'écoute des sermons ne vous fera aucun bien, à moins qu'il n'y ait des mouvements de l'Esprit de Dieu, autrement vous passerez d'une chose à l'autre, vous aurez une diversité de doctrines, et vous n'arriverez à rien de stable, et pendant que vous vous occupez de doctrines, le diable, pendant tout ce temps, l'emporte sur vous. Quant à la langue, il en a la maîtrise, quant aux mains, il en a la maîtrise, et il vous fait faire ces choses auxquelles, par ses suggestions perpétuelles, il vous pousse, de sorte que votre fréquentation de l'Église et vos prières ne signifient rien pour vous tirer de dessous la colère de Dieu et de la captivité du diable. Le diable n'a-t-il pas en captivité ceux qui vont à l'Église, disent leurs prières et font l'aumône ? Ce sont des choses que vous pouvez faire par votre propre puissance, dire vos prières, jeûner, donner l'aumône. Vous pouvez faire ces choses, le diable ne vous en empêchera pas, car il sait qu'elles ne vous tireront ni de ses griffes, ni de ses chaînes et entraves. Il n'y a qu'une seule voie, et un seul moyen, par lesquels le diable puisse être efficacement résisté, c'est de prendre à notre aide quelqu'un de plus fort que lui. Dans ma jeunesse, je suis allé chercher secours auprès de beaucoup de gens plus forts que moi, que je croyais être des chrétiens plus forts, et beaucoup d'entre eux ont apporté leur aide à l'œuvre par conseil, persuasion, exhortation et doctrine, mais tout cela n'a pas suffi, et la raison était celle-ci, le diable était trop fort pour moi, et il l'était aussi pour eux. Tant que vous irez chercher de l'aide ici et là, jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un de plus fort que le diable, n'attendez de délivrance ni de secours d'aucune chose au monde, mais mettez de côté toute confiance dans la chair, en quelque homme sur la terre que ce soit, ou dans toutes les paroles des docteurs en théologie et les meilleures prédications que vous entendrez. Mettez de côté votre confiance en eux, ils ne vous feront jamais aucun bien à cet égard, car ils ne briseront jamais vos chaînes. Beaucoup sont eux-mêmes chargés de chaînes, mais certains, je l'espère, sont fatigués et chargés, et sentent le poids du péché, et je prie Dieu d'en augmenter le nombre, bien que ce soit un état de tristesse, il vaut mieux que l'état des insensés qui se moquent du péché. Je voudrais que vous soyez fatigués et chargés de vos péchés, et amenés dans cet état, afin de vous voir captivés par la forte puissance des ténèbres, et de voir que vous êtes incapables de vous en délivrer par votre propre puissance. Que je tombe entre les mains d'un tyran plus fort que moi, et qu'aucun homme ne me délivre, comme ce serait triste. Si je pouvais trouver un homme plus fort que ce tyran, qui le tuerait, je serais son serviteur et j'aurais un meilleur maître. Aucun homme ne peut tuer ce tyran, qui m'a emmené captif et fait esclave. Si ce tyran me dit « Sois ivre, je dois être ivre », s'il me dit « Jure, je dois jurer », tel est l'esclavage où le diable a fait tomber ses serviteurs, quoi qu'ils disent, ils doivent le faire s'il leur dit de le faire. Ô misérable homme que je suis qui me délivrera. Je ne puis me délivrer moi-même, et aucun homme ne peut me délivrer. Je me lierai avec tous les chrétiens s'ils pouvaient m'aider. J'essaierai toutes les religions qui existent aujourd'hui dans le monde pour voir s'il y a de l'aide pour moi. Beaucoup sont opprimés par le péché, et ils vont ça et là pour voir quel secours peut leur être donné afin de les affranchir de la servitude où le diable les tient. Ces gens-là sont à plaindre, et les âmes de tous les gens de bien les plaindront, car cela cherche les vivants parmi les morts, ils cherchent à se racheter par ce qui ne peut les racheter. Nous avons, disent-ils, cherché puissance et force auprès de ceux qui n'en avaient pas assez pour eux-mêmes, ils étaient captifs comme nous, et tout cela parce que nous ne sommes pas venus à celui qui est plus fort que le diable. Vous suivrez la même voie, et vous y resterez jusqu'à ce que les cheveux gris viennent, et que vous descendiez au tombeau dans la tristesse, à moins que vous ne veniez à quelqu'un de plus fort que le diable, et alors, confiez-vous en lui, croyez en lui, et attendez de lui la délivrance. La raison pour laquelle les gens n'attendent pas la délivrance, c'est que deux choses sont exclues de leur croyance. Ils ne croient pas qu'une vie de péché les conduira à la destruction. Ils pensent qu'il n'est pas possible en ce monde de vivre autrement qu'une vie de péché. Le diable a conduit les hommes à ce point qu'ils vivent aussi aisément dans une vie de péché qu'un poisson dans le courant. Nous sommes dans la voie, disent-ils. Quand nous avons été baptisés, nous avons été initiés à l'Église chrétienne, nous avons été baptisés avec le signe de la croix, cela montre que nous sommes des soldats de Christ et que nous portons sur nous son insigne et son étendard. Comme l'homme disait alors, « J'ai été fait enfant de Dieu et héritier du royaume des cieux. Si cela n'est pas vrai, alors je suis trompé et abusé, car je dois croire que c'est vrai. » L'Église a affirmé que ces choses doivent être crues, et mettre en question la véracité de l'Église, c'est tout mettre en question. Je me demande si des milliers en trouvent la vérité. Quand vous avez été baptisés, une sorte d'alliance et de contrat a été conclu pour cet enfant de Dieu et héritier de la vie éternelle, qu'il renoncerait au diable et à toutes ses œuvres, aux pompes et vanités de ce monde méchant, et aux convoitises pécheresses de la chair. Et une promesse est faite que cet enfant ne servira jamais le diable ni les convoitises pécheresses, et ne sera jamais orgueilleux, mais servira Dieu et obéira à ses commandements. Or, cette promesse étant prise, ils supposent alors que cet enfant sera certainement héritier du royaume de Dieu. C'est très vrai, tenez-vous-en à votre Église, si cette promesse faite pour un enfant est gardée, alors il n'y a aucun doute qu'il soit enfant de Dieu et héritier du royaume des cieux. Mais si cette promesse fait défaut, l'Église est-elle à blâmer si l'espérance des hommes de la vie éternelle fait défaut? N'était-ce pas ma condition que vous renonciez au diable et à toutes ses œuvres, aux pompes et vanités de ce monde méchant? Et aux convoitises pécheresses de la chair, et si vous rompez le marché votre part de l'alliance et manquez d'hériter la vie éternelle qui est à blâmer, regardez la promesse, vous renonceriez au diable et à toutes ses œuvres, et aux pompes et vanités du monde. Mais vous pourriez plutôt dire, j'en ai joui autant que j'ai pu, et quant aux convoitises de la chair, j'en ai joui autant que je peux, et quoi, vous vous croyez enfant de Dieu et héritier du royaume des cieux malgré cela. Si je promets de livrer à un homme une certaine sorte de marchandise, moyennant le paiement d'une somme d'argent, si je manque à livrer les marchandises, il ne donnera pas l'argent. Un homme doit renoncer au diable et à toutes ses œuvres, et ne jamais convoiter les pompes et vanités de ce monde, pour être comme un enfant de Dieu. Voyons-le grandir, et s'il demeure fidèle à cette alliance jusqu'à sa mort, auquel cas je ne doute nullement qu'il ne soit héritier de la vie éternelle. Mais lorsque tout cela est rompu, et que la promesse ne signifie rien, et que l'homme est livré à servir le diable, viole toutes les saintes lois de Dieu, R.S. écarte la voix des commandements de Dieu comme une brebis perdue, et s'empare des pompes et vanités du monde autant qu'il le peut, et pense ne recevoir que ce qui lui revient. Et lorsqu'il s'abandonne aux convoitises de sa chair, celui-là. Il est un enfant de l'esprit qui fut menteur dès le commencement. Ne parlez jamais d'être enfant et héritier du royaume de Dieu, un tel homme est dans les fers, il doit aller avec le diable et ses anges, il y a un royaume préparé pour eux, un royaume de ténèbres, et il doit avoir sa part avec eux dans la misère éternelle. Tophet est préparé depuis longtemps pour tous les ouvriers d'iniquité, qu'en est-il de ceux qui sont baptisés? Oui, mais ne niez-vous pas le baptême? Non, pas moi, je voudrais que les hommes et les femmes soient baptisés d'un baptême qui leur fasse du bien. Certains ont vu la vanité et la faiblesse de ce genre de baptême qu'on appelle baptême des enfants, et c'est pourquoi ils iraient se faire baptiser et plonger dans l'eau jusqu'au-dessus de la tête, mais ils en ressortaient avec le même cœur et le même esprit, et la même âme souillée. Jean baptisait dans le Jourdain, et tout Jérusalem et la Judée venaient se faire baptiser par lui. Parmi eux se trouvaient des personnes qui ensuite crucifièrent le Seigneur Jésus-Christ, qui ne leur avait jamais fait de mal durant sa vie, mais beaucoup de bien. Ce baptême, le baptême d'eau, n'a jamais eu de patronage apostolique, mais il y avait un autre baptême, un baptême si infaillible que, si un homme en était assurément baptisé, il était assuré du ciel, il n'aurait jamais besoin d'autre assurance du ciel que d'être baptisé du baptême de Jésus-Christ. La bouche de la vérité parle de lui, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il sera sauvé malgré le diable et toutes ses tentations, malgré les persécutions et les pierres d'achoppement placées devant lui. Voici un baptême qui vaut la peine d'un homme, qui vaut tout son travail, s'il pouvait l'obtenir. « Celui qui vient après moi, disait Jean-Baptiste, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, voici un baptême qui appartient aux chrétiens, une ordonnance instituée. Loin de nous de nier le baptême, mais nous voudrions reconnaître le bon, puisqu'il y en a tant de sortes. Ce baptême est si juste et si certain qu'il assure un homme de son salut, mais il est accompli par le Saint-Esprit et par le feu. » Si c'est par le Saint-Esprit, alors cela est assez loin de nous, parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit de nos jours, disent certains. Ainsi ce baptême a cessé, la conséquence ne peut s'en suivre. Vous et moi ne pouvons être baptisés parce qu'il n'y a pas d'action du Saint-Esprit de nos jours. Certains disent, ce baptême est du Saint-Esprit et de feu pour brûler nos corruptions et purifier nos cœurs. Mais le Saint-Esprit a cessé d'agir sur les hommes, disent-ils, donc il y a une fin à ce baptême. Un homme a faim, quand vient l'heure de manger, il n'a pas de nourriture, et pourtant il s'assoit comme pour manger, cela le nourrira-t-il? Ainsi les hommes, aujourd'hui, ils ont un baptême dont ils sont baptisés, mais le baptême du Saint-Esprit et de feu est le vrai baptême. Par conséquent, ne baptisez pas tant que vous n'avez pas trouvé le Saint-Esprit, cela vaudra bien mieux. C'est le baptême qui, pour ceux qui en viennent à le connaître, les rend sûrs du salut. Car par ce baptême, ils sont soutenus et imprégnés dans leur âme de l'Esprit divin de Christ Jésus, procédant du Père dans le Fils, jusqu'à ce qu'ils reçoivent sa ressemblance et meurent ainsi au péché. Tous ceux qui ont été baptisés dans la mort de Christ. L'apôtre l'expliquait, en ce qu'il est mort au péché une fois, mais en ce qu'il vit pour Dieu, de sorte que ceux qui ont été baptisés dans la mort de Christ, et vous qui êtes morts au péché, comment pourriez-vous y vivre encore ? Ceux qui ont été baptisés vivaient sans péché, cela peut-il être vrai puisque personne n'a vécu sans péché, sinon Christ seul? Oui, disait l'apôtre, vous qui étiez affranchis du péché, vous êtes devenus vivants pour la justice. Leur vie était auparavant dans le péché et maintenant cette vie est ôtée par le baptême, et ils sont vivants pour Christ, et celui qui vit, il vit pour Dieu. Celui qui vient à participer à la première résurrection, qu'il vive 10, 20, 40 ou 100 ans, ne vit plus dans les pompes et vanités du monde et les convoitises pécheresses de la chair, mais vit pour Dieu. Ce baptême, quiconque vient en être baptisé sera sauvé, ainsi nous ne nions pas le baptême, mais nous entendons dire que vous niez la scène du Seigneur. Nous n'avons jamais eu une telle pensée, Dieu le sait, il n'est rien que nos âmes désirent davantage, mais les gens se sont fabriqués une sorte d'œuvre à eux le sacrement inventé de la communion, ils ont perdu une réalité et font des ombres, comme font les enfants, qui, lorsqu'ils voient qu'on façonne dans la maison des choses destinées au service, en font une imitation dans le sable et l'argile. Les gens ne voient pas quelle grande chose c'est que de participer à la scène du Seigneur, lorsque les choses se découvrent dans une ouverture évangélique, nous parlons alors des choses plus vivement et plus fraîchement. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. Actes 3:20. Pour comprendre ce texte, allez consulter tous les commentateurs que vous pourrez trouver, et voyez ce que les hommes savants en disent, voyez s'ils ne l'appliquent pas à l'appel intérieur de l'Esprit et de la grâce de Christ, pour le laisser entrer dans nos cœurs, qui penseraient que ceux qui ont écrit ces choses seraient contre la dispensation spirituelle. Ils disent que ce frappement à la porte du cœur signifie l'appel de l'Esprit de Dieu à la porte du cœur. Il y a deux sortes de pécheurs chez lesquels Dieu frappe à la porte du cœur. L'un est un homme las de son péché, pour sa part, il souhaite ne plus jamais pécher. Dès qu'il perçoit le coup et l'appel à laisser entrer la grâce de Dieu pour l'aider contre la tentation, il ouvre volontiers son cœur pour la recevoir, et dit « De tout mon cœur, j'acquerrai et recevrai la grâce de Dieu, je suis heureux que Dieu ait eu tant de patience envers moi, et puisque Dieu offre sa grâce, j'embrasserai cette grâce de Dieu au-dessus de tous les plaisirs, et je la prendrai dans mon cœur. » La grâce de Christ est le plus grand joyau que je connaisse. L'honnête Paul suivit cette voie et pria « Seigneur, ôte ce tentateur, voici une tentation qui me trouble, et je ne veux pas céder car le diable me poursuit avec elle. » Il cria au Seigneur et le supplia trois fois avec instance d'ôter la tentation. La réponse du Seigneur est « Ma grâce te suffit. » Qu'importe si le tentateur te maltraite et te trouble, n'as-tu pas reçu ma grâce dans ton cœur? Tu es croyant, tu as confiance en moi, et ma grâce te suffit. Que le tentateur fasse le pire, tiens-toi à la grâce de Dieu, et tu résisteras et surmonteras la tentation lorsqu'elle viendra. Si un homme ouvre son cœur et reçoit Christ lorsqu'il vient, alors vous trouverez en cet homme un tel changement que, allez l'éprouver avec la même tentation qu'il avait vaincue la semaine précédente. Cela ne fera plus ainsi maintenant, bien qu'il soit aussi faible que l'eau, et aussi enclin à la corruption et à l'iniquité qu'auparavant. Pourtant, maintenant qu'une foi est engendrée en lui, que la grâce de Dieu le défendra, il se tient hors des pièges du diable. Or, cet homme se confiant en cette grâce jusqu'à ce que son péché et son iniquité soient purgés, alors voici le temps d'étendre la table, voici un cœur pur, et l'hôte céleste est maintenant venu, et les mets du royaume lui sont apportés pour sa nourriture. Alors, dit Christ, j'entrerai et je souperai avec lui, et mon Père viendra aussi, et nous souperons avec lui, et lui avec nous. Cela n'arrive jamais à personne tant que la table et le cœur sont souillés, car il faut que la table soit suelicta, suelici, suelicae, suelictae, que le diable et le péché soient chassés, et alors le Seigneur confirmera, ratifiera et scellera l'alliance, de sorte que voici un sceau accompagné d'un témoin. Quand un homme a ce témoignage de l'amour de Dieu, que Dieu est réconcilié avec lui en Christ, alors Christ entrera, il amènera son Père, et ils souperont avec lui, et c'est ce qui donnera pleine satisfaction à une telle âme. Toutes les langues des hommes et des anges sont trop courtes pour parler de ces choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, mais elles sont toutes manifestées par l'Esprit. Tous les mystères du royaume de Dieu sont manifestés par l'Esprit de Dieu. Dire maintenant qu'il n'y a pas d'esprit à considérer de nos jours, c'est autant dire qu'il ne faut jamais considérer le royaume de Dieu. Car nul ne peut discerner les choses de Dieu sinon l'Esprit de Dieu, nul ne peut dire ce qu'elles sont, comme nul ne peut connaître les choses d'un homme sinon l'Esprit de l'homme. Certains disent à tort, « Mais je dois m'en tenir à telle et telle forme, et les noter, et les méthodiser, car les hommes ne peuvent rien connaître des choses de Dieu elles-mêmes. J'espère que vous êtes tous d'un autre avis, et que vous croyez que c'est là un tour et une tromperie du méchant. Les gens trouvent l'Esprit et le sentiront s'ils veulent attendre ces mouvements. Je n'entends pas seulement lorsque vous êtes ici ensemble, mais lorsque vous êtes séparés les uns des autres, lorsque vous sentez les mouvements de ce bon Esprit, embrassez-les et faites-les vôtres. Cet Esprit est un don qui est offert, de même qu'une pièce de monnaie ou un morceau de pain est tendu à une pauvre créature, mais si elle ne le reçoit pas, elle peut périr malgré tout. Ce n'est pas à elle, bien que j'ai décidé que ce serait à elle, et que je l'ai séparée de mon autre bien pour le lui donner. Si elle ne reçoit pas ce que je lui offre et veut lui donner, elle peut périr malgré tout. Voici, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, et Dieu l'a offerte à tous les hommes, en ce qu'il a ressuscité Christ d'entre les morts. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, mais tous les hommes ne l'ont pas reçue, donc tous les hommes ne l'ont pas, et ceux qui n'ont pas la grâce de Christ et l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas, mais il ne s'ensuit pas qu'ils ne lui appartiendront jamais. Ce qu'ils auront reçu le don par Christ et diront « Je serai sa brebis ou son agneau », ils entreront dans sa faveur par ce don et participeront aux bonnes choses du royaume de son Père. Mais jusqu'à ce qu'il ait reçu ce don, ils n'en sont pas meilleurs, ils ne retirent aucun profit de la mort de Christ. Ils n'en ont aucun secours, aucun bénéfice, si ce n'est dans la patience et la longanimité de Dieu, qui à cause de Christ supporte leur faiblesse et attend pour faire grâce et à cause de Christ leur offre sa faveur, mais ils n'en. Emportez ceci avec vous. Qu'il est de votre devoir absolu et indispensable d'attendre, jour après jour, le grand Dieu du ciel, le donateur de tout don bon et parfait, afin que vous ayez ce don béni, afin que vous ayez l'assistance d'une puissance plus grande que la vôtre, pour vous conduire hors du péché vers la justice, afin que par Jésus-Christ, vous soyez agréable à Dieu. Sermon XI Christ, le chemin, la vérité et la vie prononcé par Stephen Crisp à Gracious Street, le 18 avril 1687. Je crains que les hauts lieux ne soient pas ôtés, il en a été ainsi en tous les temps, et il en est manifestement ainsi aujourd'hui. Là où le cœur n'est pas dû me préparer pour le Seigneur, là les hauts lieux ne sont pas ôtés. Car tous les hauts lieux, au temps de l'idolâtrie d'Israël, furent toujours dressés lorsqu'ils se détournaient du Seigneur, et tous les hauts lieux d'aujourd'hui s'élèvent en un temps d'ignorance de Dieu. Quand les gens ont oublié le Seigneur, alors ils s'exaltent eux-mêmes, alors l'orgueil, l'arrogance et toute voix mauvaise prévalent sur nous. Mais quand les hommes viennent chercher le Seigneur avec droiture, cela abat leur haute prétention, cela amène chacun à l'humilité. Car chacun en vient à être convaincu en lui-même que nul ne peut trouver le Seigneur, sinon s'il est amené à l'humilité. Non, en vérité, nul ne le cherche correctement si ce n'est elle, nul n'a la promesse de le trouver sinon les humbles. C'est pourquoi il est du devoir de chacun, qui est un véritable enquêteur et chercheur de Dieu, de connaître la juste préparation de l'esprit, de se connaître dans une disposition d'âme telle qu'il puisse chercher avec espérance, qu'il puisse avoir une attente droite et juste de trouver celui qu'il cherche. Car c'est là la raison pour laquelle beaucoup ont été frustrés dans leur effort et dans leur dessein de chercher le Seigneur. Ils n'ont pas été dûment préparés pour qu'il se manifeste à eux, ils n'ont pas connu la préparation de son sanctuaire, la purif. Il fallait une préparation particulière à ceux qui s'approchaient du sanctuaire de Dieu. Ils étaient sanctifiés, c'est-à-dire rendus saints, avant de s'approcher du lieu saint. Mais hélas, cela a été grandement négligé en nos jours, car des gens impies, avec des esprits impies, ont cherché le Dieu saint. Ils se sont enquis d'une voie sainte et n'étaient pas préparés à y marcher. Rien ne s'élevait dans leurs esprits qui fût propre à marcher dans cette voie. Car tant que les hommes ou les femmes demeurent unis à leurs convoitises et à leurs désirs sexuels, à l'esprit de ce monde et à sa manière d'être, ils ne sont pas capables de recevoir ce qui devrait les conduire dans la voie de la sainteté. Non, quand bien même cela leur apparaîtrait, ils ne peuvent le recevoir, car il en est pour eux comme pour d'autres hôtes. D'autres amours ont déjà été admis dans leur cœur, lesquels emploient les forces et les facultés de leurs âmes, de sorte que si le plus aimé de tous, le plus excellent, ou si le plus grand entre 10 000 se présente, ils ne peuvent en voir l'attrait séduisant. Le prophète, parlant de cet état et de cette condition des hommes, a prophétisé au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous le verrons, il n'y aura en lui aucune beauté pour que nous le désirions, et c'est ainsi qu'il en est arrivé à beaucoup de nos jours. Bien que la vérité leur soit apparue, ils ne l'ont pas regardé comme une voie agréable, comme une voie désirable, mais comme une voie à fuir si possible. Quelle rationalisation beaucoup de gens ont-ils forgé pour se tenir, si possible, hors de la voie de la vérité, plaidant pour ceci ou cela, et disputant pour une voie ou une autre qui était hors de la voie de la vérité, hors de la voie de la sainteté. Que signifiaient tous leurs arguments, sinon nous dire qu'ils désiraient être heureux, qu'ils désiraient être sauvés, bien qu'ils ne fussent pas entrés dans la voie de la vérité, ni n'eussent marché dans la voie de la vérité. Et quoi qu'ils demeurassent, dans ces choses contraires, au témoignage de la vérité dans leur propre cœur, ils pensaient pourtant que tout pourrait encore bien aller pour eux. C'est là la force des arguments de toutes sortes, de toutes les persuasions du monde, qui se sont argumentées elles-mêmes hors de la vérité, et voudraient aussi nous faire sortir de la vérité, et prendraient la liberté de faire des choses qui ne lui sont pas conformes. Mais la raison en est maintenant que la préparation fait défaut. Ce sont ceux qui n'ont pas besoin de la vérité, et qui n'ont pas besoin de Dieu ni d'un sauveur, mais pensent pouvoir être en sécurité sans eux. Il n'est pas devenu pour eux leur priorité principale. Ils pensent pouvoir demeurer sur les hauts lieux, qu'ils peuvent invoquer le nom du Seigneur, et qu'ils peuvent adorer à la fois dans les bosquets et sur les hauts lieux. C'est comme ces nations qu'on amena à habiter le royaume d'Israël lorsque les 10 tribus furent emmenées, elles envoyèrent chercher des prêtres pour les instruire. Elles renvoyèrent vers le roi d'Assyrie pour qu'il leur prête des prêtres, afin de leur apprendre à adorer le Dieu de leur pays. Elles occupaient Israël, et lorsque le prêtre vint les instruire, il leur enseigna les cérémonies de la loi et les nombreuses observances que les Juifs avaient coutume de pratiquer dans ce pays. Et ainsi elles entrèrent dans une manière formaliste de servir le Dieu d'Israël. Elles invoquaient le nom du Seigneur, tandis que chaque nation continuait aussi le culte de ses propres dieux. Comment ce pays et les nations d'Europe sont-ils maintenant habités par un peuple appelé du nom du Seigneur, mais où chacun adore ses propres dieux? L'un fait de l'or et de l'argent son dieu, un autre fait de son plaisir son dieu, un autre de son honneur, un autre ceci, cela, et tel ou tel autre convoitise. Et ils se prosternent devant eux, c'est-à-dire qu'ils se livrent à leurs convoitises, immoralité sexuelle et corruption, avec lesquelles ils sont en unité, mais ils invoquent aussi le nom du Seigneur. Ils s'attachent à quelque forme de culte qu'ils disent être dirigée vers le Dieu immortel et invisible, mais hélas, ils ne parviennent pas par là à la connaissance de Dieu. Quoi que puissent faire les prêtres que le roi d'Assyrie renvoya vers les occupants d'Israël, ils ne purent amener les Samaritains à la connaissance du Dieu d'Israël. Ils ne leur apportèrent qu'un récit d'un tel Dieu ayant établi une telle loi. Ils en avaient le récit, et par crainte que les lions ne les mettent en pièces, ils entrèrent dans cette forme, mais ils continuaient d'adorer leur propre Dieu. Crisp distingue entre la connaissance issue de la lecture ou de ce qu'un autre homme dit au sujet de Dieu, et la connaissance expérientielle de Dieu, acquise en étant enseigné par Dieu lui-même, c'est-à-dire en entendant sa voix et en voyant ses révélations à son sujet, sa justice, et l'état de votre cœur en particulier. Il en est ainsi aujourd'hui. On ne parvient pas à la connaissance du vrai Dieu, du Dieu vivant, en entrant dans quelque forme de religion. Par exemple, la prière, l'écoute de quelque ordonnance ou la communion d'église, tout cela ne donne pas aux hommes la connaissance de Dieu, car il n'y a qu'un seul moyen d'y parvenir, et un seul. Les hommes en ont trouvé un grand nombre, et ils dépassent votre capacité et la mienne de dénombrer les nombreuses voies que les hommes ont inventées sur la face de la terre, par lesquelles ils pourraient venir à la connaissance de Dieu, et à la paix et à la réconciliation avec lui. Mais ils n'ont fait que se comporter en insensés et perdre leur temps en vain, surtout ceux qui reconnaissent les Écritures de vérité comme un témoignage vrai et fidèle de la pensée et de la volonté de Dieu. Ils se rendent abominablement insensés, car l'Écriture à laquelle ils donnent tant de crédit dans leur profession atteste que la voie n'est qu'une, et qu'il n'y a pas d'autre voie pour être réconcilié avec Dieu que de venir en Christ, d'être trouvé en lui, d'être régénéré et né dans sa nature, et de se voir revêtu de ses qualités, afin que comme il était pur, eux aussi soient purs, afin que celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés par lui deviennent tous deux un, et soient ainsi réconciliés avec le Père par lui. Vous savez que c'est la profession commune de la chrétienté, ou du moins de notre nation. Et dans d'autres nations, la profession commune est qu'il n'y a qu'un seul médiateur, qu'un seul réconciliateur. Certes, d'autres soutiennent qu'il peut y avoir d'autres médiateurs Marie et leurs soi-disant saints, et qu'il y en a d'autres qui peuvent les aider par leur médiation, par leurs prières et leurs mérites, mais la généralité des nations n'est pas de cet avis. Or que les gens se brouillent et disent « ma voix est la meilleure » et « votre voix n'est pas la meilleure » et qu'ils tombent dans des querelles au sujet de plusieurs voix, quand l'Écriture conclut qu'il n'y a qu'une seule voix, cela ne va pas, nous ferions mieux de nous accorder tous sur cette doctrine, qu'il n'y a aucune possibilité de réconciliation avec Dieu puisque nous nous sommes brouillés avec lui, et puisque le péché a fait une séparation, il n'y a pas de moyen d'être réconcilié de nouveau avec Dieu, sinon paré au moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut nous vivifier, nous ranimer ou nous recommander à Dieu, sinon l'Esprit de Christ opérant et agissant dans nos cœurs, afin qu'il nous prépare pour le royaume du Père. Le Seigneur nous vivifie à la vie de Dieu, dont la fin est de vivre dans la lumière, de voir Dieu, de se voir dire quoi dire, de se voir montrer quoi faire. Être préparé pour le royaume, c'est être lavé, purifié et affranchi du péché. Si les gens s'accordaient sur cela, il y aurait fin à tout travail, toute peine et toute crêle au sujet de la bonne voie, car la conséquence et la conclusion seraient celles-ci. L'homme qui ne connaît pas en lui-même la puissance sanctifiante de l'Esprit du Christ Jésus est hors de la voie de la réconciliation avec Dieu, quelle que soit sa forme et sa profession. Si donc il est réconcilié avec Dieu, ce doit être paré au moyen du médiateur, et il ne le recommandera jamais au Père avant de l'avoir fait temple pour laisser entrer l'Esprit du Christ, afin d'agir dans son cœur et de le rendre apte au royaume de Dieu. Et les hommes n'ont pas d'autre moyen d'y parvenir, car quoi qu'ils soient zélés dans toute prière et toute forme, cela ne signifie rien d'important. Leur espérance sera déçue, il n'y a pas d'autre voie, a dit Christ, pour venir au Père sinon par moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si je suis hors de la vérité, je suis hors du chemin, et si je suis hors du chemin, alors je ne puis parvenir au terme du chemin. C'est un raisonnement clair parmi les hommes, si je mens, je suis hors de la vérité. Si j'ai des paroles vaines, ou si je trompe ou fais tort à mon prochain, je suis hors de la vérité. Si je demeure dans ce qui est manifesté dans ma conscience comme étant contraire à la vérité, je suis hors du chemin. Et même si je suis strict en cette voie quant à la profession, je suis hors du chemin de Dieu, je suis hors de la vérité. Il n'y a de chemin vers Dieu que par Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque est hors de lui est hors du chemin. Ce qui fit dire à l'apôtre que son travail, son effort et son dé. Beaucoup d'hommes pensent se recommander à Dieu par leur conduite juste, droite et honnête, et en ne faisant tort à personne. C'est bon en soi. Mais cela ne nous recommande pas à Dieu, à moins que cela ne soit fait par l'Esprit juste et saint du Christ Jésus, à moins que ce ne soit son œuvre, il faut qu'il fasse opérer en nous la justice et la vérité, il doit la planter, et elle doit croître par son action pour être agréable au Père, car sans moi, a dit Christ, vous ne pouvez rien faire. Un homme hors de Christ, étranger à son esprit, peut faire quelque chose, mais rien qui soit utile au bien-être de son âme, jusqu'à ce qu'il ait la réconciliation par Christ Jésus. S'il est réconcilié avec Dieu, ce médiateur doit être le réconciliateur, et il doit le rendre apte et le préparer à la réconciliation avec le Père. Toutes les divisions, sortes et sectes de religion doivent toutes prendre fin. Si cette ligne de mesure est appliquée à elles, elles paraissent toutes trop courtes, et rien ne fera du bien à un homme, sinon la religion qui l'oblige et l'attache au bon plaisir de Dieu, par l'esprit du médiateur, qu'il sent agir en lui, par lequel il est relevé de la mort à quelques degrés de vie. Lorsqu'il sent combien le péché est un fardeau pour sa vie, cette vie pieuse qu'il a, il est chargé par chaque péché et opprimé par chaque pensée vaine et chaque parole vaine. S'il n'est pas en quelque mesure vivifié, il ne sent pas ce fardeau, mais étant vivifié, il sent le fardeau qui pèse sur sa vie à cause de son péché, et alors, étant sous le poids de son péché, il crie à Dieu pour son aide. Il crie à Dieu de l'aider, Il sait maintenant qu'il s'est efforcé et a travaillé en vain. Ô Dieu de toute grâce, si tu n'aides pas mon âme, si tu n'interviens pas par l'assistance de ta grâce, je ne puis vaincre ce péché. Il y a un cri continuel vers Dieu pour une aide divine, et comme ils crient à Dieu pour de l'aide, il leur dispense de l'aide, par laquelle ils peuvent vaincre l'ennemi de leurs âmes et toutes les tentations lorsqu'elles viennent. Et quand un homme trouve une telle aide divine, sa foi est fortifiée et confirmée. Ainsi il combat le bon combat de la foi et finit par obtenir la victoire, victoire sur son péché, sur ses propres convoitises et désirs sexuels, et victoire sur les assauts et tentations de l'adversaire. Et enfin il en vient par la grâce de Dieu à renoncer à toute impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre avec justice, sobriété et piété dans le présent monde. Or, quand les gens font ainsi, c'est par la grâce de Dieu. Cette vie de justice, de sobriété et de piété n'est pas l'effet de leur travail et de leur exercice, ni de leurs efforts en cela, c'est l'effet du Saint-Esprit qui a été le maître. Quand vous voyez qu'un homme est devenu un bon érudit, éminent dans toutes sortes de sciences, vous conclurez qu'il n'a pas atteint tout cela par lui-même, il n'a pas appris de lui-même telle ou telle langue, tel ou tel art et science, non, il est quelque maître et professeur judicieux et capable, qui a communiqué son savoir et sa connaissance à son disciple et élève. Voilà la cause efficiente de son progrès. Ainsi, si un homme, par la grâce et l'Esprit de Dieu, et par ses enseignements, mène une vie sainte et pieuse, c'est l'effet de quelque chose, il n'a pas toujours vécu ainsi, comment donc en vient-il à vivre ainsi maintenant? Est-ce par sa propre industrie, son travail et son exercice? Non, c'est en étant exercé, enseigné et conduit par l'Esprit de Dieu, de sorte que c'est l'effet de la grâce de Dieu qu'il vive une vie si sainte, c'en est la cause méritoire, en tant qu'il est une créature, et par cela seul acceptable à Dieu en Christ le médiateur. Ainsi un homme en vient à être justifié et accepté, non parce qu'il est un homme pieux, mais parce qu'il est rendu tel par l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas sous la loi, dit l'apôtre, mais sous la grâce, vous êtes sous ses enseignements, sous ses directions. La grâce peut reprendre les gens, car cette grâce et cette vérité qui viennent par Christ, et se manifestent comme une lumière dans les cœurs des transgresseurs, reprennent leurs péchés et les en appellent or. Elles les en reprennent et les exhortent à l'abandonner, tout à la fois, de sorte que nous devons reconnaître que toute notre justice, notre sainteté et notre obéissance viennent de Dieu, et que tout ce que nous faisons en vue de cela, dans la mesure où c'est fait par l'enseignement, par l'influence et l'opération de la grâce de Dieu qui nous est donnée en Christ Jésus. Si nous sommes justifiés, nous ne sommes pas justifiés pour une vie juste et sainte, ni pour notre obéissance, mais nous sommes justifiés par Christ, qui opère une vie pieux en ceux qui croient, de sorte qu'un homme n'est justifié par aucun autre moyen ni aucune autre voie, et toutes les autres voies qu'un homme prend pour être réconcilié avec Dieu sont vaines et stériles, et ont été condamnées par tous ceux qui furent mus par le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Le prophète dit, « Avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur? Je suis tombé sous la mort et le péché, et dans une séparation d'avec Dieu, je voudrais volontiers être réconcilié avec lui. Que ferai-je pour être réconcilié avec Dieu? Il entreprend de compter sans Christ et sans foi ni sainteté. Prendrai-je 1000 béliers et 10 000 fleuves d'huile? M'approcherai-je davantage encore? Ferai-je une offrande du fruit de mon corps pour le péché de mon âme? Offrirai-je mon premier-né à Dieu, afin de n'être pas rejeté et renvoyé dans la séparation d'avec lui? Ainsi les hommes, lorsqu'ils en viennent à en être sensibles, sentent en eux-mêmes que tout cela ne sert à rien. La réponse vient, tu peux vivre, mais toutes tes inventions au sujet des offrandes sont vaines. Il t'a montré, ô homme, ce que tu dois faire. Ce n'est pas en trouvant ceci ou cela, c'est-à-dire tes béliers, ton huile et ton premier-né, ce n'est aucun chemin de ton invention et de ton imagination qui puisse te réconcilier avec moi, je t'ai montré, homme, ce qui est bon. Qu'est-ce qui a été montré? Cela est compris dans une courte injonction, il doit aimer la miséricorde, faire justice et marcher humblement avec ton Dieu. Cela suffira-t-il sans offrir des béliers et de l'huile, et offrir mon premier-né? Cela suffira si tu ne peux que aimer la miséricorde quand elle t'est montrée, c'est-à-dire accueillir la miséricorde et l'aimer. Il a montré sa miséricorde à tous les hommes, aime-la donc et reçois-la, fais justice, laisse tout ce qui est injuste, et fais ce qui est juste aux yeux de Dieu, mais ne te vante pas de ta justice et de ta droiture, marche humblement avec ton Dieu, voilà tout le devoir de l'homme. Il n'y a ici aucune dépendance des œuvres mortes, ni de mes propres efforts, en vue de ma justification. De fait, la considération de telles leçons corrompt certains hommes, et les pousse à faire ceci ou cela, et à éviter ceci ou cela. Elle a conduit beaucoup à la confession et à une grande abstinence, et les a poussés à de grandes pratiques, pensant que cela satisferait la justice de Dieu. J'ai aimé la miséricorde et donné tout ce que j'avais aux pauvres. Si je fais justice et m'abstiens de telle et telle liberté, si je marche humblement, c'est-à-dire si je m'humilie par telle ou telle manière de pénitence et de contrition, alors je fais ce que Dieu exige, et alors j'ai plu à Dieu. Or tous ceux qui ont emprunté cette voie pour faire justice, aimer la miséricorde, se rendre humble et se sont humiliés d'une manière si basse, ont manqué le but, il t'a montré, ô homme. ce qui est bon, que l'homme déchu ne peut pas de lui-même répondre à cela, il peut être convaincu de son devoir de faire justice, mais par sa propre puissance et sa propre force, il ne le peut pas. Il y a tant de tentations du dehors et tant du dedans, une telle propension dans la nature, qu'elle prévaudra contre tous les liens de charité qu'il peut se donner. C'est pourquoi le secours a été placé sur celui qui est puissant. Sans la grâce de Dieu qui vient par Jésus-Christ, un homme ne peut jamais bien faire, même s'il en est convaincu. Bien que le Seigneur lui ait montré ce qui est bon, il nous montre que nous en sommes incapables par nous-mêmes, il a pris soin d'envoyer son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, afin qu'il aide ceux qui ont besoin d'aide, pour que quiconque est dans la détresse puisse tourner les yeux vers Christ, l'auteur et le consommateur de leur foi. Quand les hommes se réfèrent à leur foi en Christ, cela rend leur devoir acceptable. Je ne puis le faire, à moins que le Seigneur ne me fortifie, c'est pourquoi je regarderai au médiateur, Jésus-Christ, qui a été envoyé comme une lumière dans le monde. Dieu envoie sa grâce afin que chacun puisse s'en saisir, lui qui croit généralement que, bien qu'il soit incapable de faire ce que Dieu requiert, Dieu lui donnera pourtant la capacité de le faire, car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, bien qu'ils aient été auparavant enfants du diable, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il demeure toujours le même dans sa grâce envers les hommes, il est le même dans son action envers eux, il offre la grâce à ceux qui sont dans une disposition d'esprit à la recevoir, afin qu'ils sachent que sa puissance leur donnera la capacité, et afin que tout ce qu'ils feront d'eux-mêmes se révèle stérile, parce que ce n'est pas fait au nom et par la puissance de Christ, et n'est donc pas acceptable à Dieu. La chose la plus importante dont nous devons nous préoccuper, si nous voulons être religieux et nous occuper des choses divines, du royaume de Dieu et du monde à venir, c'est de voir dans quelle disposition d'esprit nous sommes à présent, si les hauts lieux sont ôtés, si nous ne nous exaltons pas dans nos propres prétentions de connaissance et de sagesse, et si nous ne reconnaissons pas que nous lui sommes redevables de sa grâce. Si nous sommes pleins de suffisance et pensons pouvoir tenir sur nos propres jambes, les hauts lieux ne sont pas ôtés. Les hommes, en cet état, ne sont pas préparés à chercher le Dieu de leur Père. Que chacun donc se tourne vers Dieu et voit où vous en êtes, voyez s'il y a en vous un esprit suffisamment abaissé pour être soumis à Christ et aux enseignements gracieux de son esprit. Un homme peut dire, « Je peux faire un sermon, je peux faire une prière et une exhortation, et je peux faire un livre et le diffuser, je peux faire tout cela par mes propres talents et capacités, oui, tu le peux, et tu peux le remplir de bonnes paroles, mais tu ne pourras jamais le rendre acceptable à Dieu, car sans moi, a dit Christ, vous ne pouvez rien faire. » Il te faut l'assistance de l'Esprit de Christ, autrement, tu ne peux faire une bonne prière, ni un bon livre, ni rien de bon, Dieu estime que la prière même des méchants est une abomination pour lui. Lorsque l'Esprit n'est pas exercé par l'Esprit de Dieu, quand bien même il prierait du matin au soir et passerait tous ses jours en pénitence, cela ne lui ferait aucun bien. Si moi, dit David, je considère l'iniquité, vous pouvez penser que je suis un homme en faveur auprès de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, si je considère l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur n'entendra pas ma prière. À quoi servent des prières et des sermons, faits de bonnes paroles, s'ils ne viennent pas d'un cœur séparé de l'iniquité? Si ce n'est pas le cas, cela ne sert à rien du tout quant à l'acceptation auprès de Dieu. Oh, que la crainte du Seigneur entre dans chaque cœur! Attendez tous de sentir la puissance divine du Seigneur, qui abat toute pensée orgueilleuse, afin que vous puissiez regarder à la préparation de vos cœurs, qui est la bonne préparation. Quand les gens sont si bas, si brisés et si tendres, qu'ils ne sont rien à leurs propres yeux, sinon ce que le Seigneur fera d'eux, alors ils sont comme de l'argile entre les mains du potier, ils sont façonnés par ses mains et fait l'ouvrage de Dieu en Christ Jésus, l'unique médiateur entre Dieu et l'homme. Ils doivent porter la ressemblance de Jésus-Christ, porter son image céleste, ils doivent avoir ses qualités et avoir le même esprit que celui qui était en lui. « Je fais toujours ce qui plaît à mon Père, dit le Seigneur Jésus-Christ. » En vérité, c'est lui qui opère les choses dans le cœur des hommes, et Dieu prend plaisir en lui, mais là où les hommes les font d'eux-mêmes, ils sont repoussés comme du fumier au visage. Là où quelqu'un désire à juste titre la justification, là où les hommes ont une préparation de cœur correcte pour chercher le Dieu de leur Père de manière à le trouver et à être accepté de lui, c'est par Jésus-Christ, en qui il a toute son complaisance. Dans toutes vos assemblées, prières, exercices et méditations, vous devez être séparés et détachés de vos anciens amours, et vous devez être unis à celui que Dieu a envoyé pour être votre conducteur et votre guide. Alors vous trouverez son assistance chaque jour, et comme vous avez de l'assistance de sa part, vous trouverez l'acceptation auprès de Dieu, et il vous montrera le Père. Cela et rien d'autre satisfera l'âme qui a faim et soif de Dieu, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ainsi, lorsque Christ, le médiateur, en est venu à opérer jusqu'à purifier l'âme et la sanctifier, et l'a ainsi rendu apte pour sa gloire, de telles âmes saintes contempleront sa gloire, car le Seigneur donnera la grâce et la gloire, et il ne refusera aucun bien asterisque à ceux qui marchent avec droiture. Astérisque note, Dieu ne donne qu'à ceux qui marchent dans la justice, avec droiture. Ne confondez pas cela avec le faux évangile de la prospérité, qui est une abomination. Tant que les convoitises d'un homme n'ont pas été crucifiées sur la croix intérieure du renoncement à soi, le Seigneur retiendra certainement la prospérité. Car s'il donnait des richesses temporelles à un tel vieil homme charnel non régénéré, il ne ferait que les gaspiller dans ses convoitises. Mais après qu'un homme marche avec droiture, le Seigneur veillera à ce que ses bien-aimés aient les bonnes choses de cette vie à goûter pour sa gloire. Que vous puissiez être amenés à cet état et y être gardés et préservés, que les cieux fassent pleuvoir sur vous l'abondance et que vous puissiez sentir les vertus vivantes qui découlent de Christ vers chaque membre, tel est le travail et la peine des serviteurs de Dieu, pour leurs propres âmes et pour les âmes des autres qui sont en unité et en communion avec le Saint-Esprit. Sermon suite. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.